strette, ho con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
L'émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan. Bonsoir Laurent, bonsoir Dominique, parce qu'aujourd'hui ce ne sera pas Alain Pongan mais Dominique Molin.
Bonsoir Jean, bonsoir Laurent.
Et nous avons prévu de parler d'un autre grand de la chanson, Enzo Iannacci. Enzo Iannacci. La chanson qu'on vient d'entendre de Bennato qui introduit notre émission est très significative. Il y a la chanson, puis il y a la chansonnette. Il y a deux types de chansons, au fond. Il y a les chansons qui veulent seulement être à la mode. Pourquoi être à la mode? Parce que si on est à la mode, on vend beaucoup. La chanson commerciale, elle a un objectif premier, c'est de faire du fric en vendant le maximum de disques ou en faisant le maximum de concerts. Et puis, il y a la chanson qui veut vendre aussi, mais dont l'objectif premier, c'est de faire réfléchir les gens, de les enrichir, de leur poser des questions, éventuellement de leur apporter des réponses. Et Iannacci, dans ce cadre, est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui, à la fois, a voulu rendre compte de la réalité. Et c'est une réalité qui, pour lui, a des aspects très négatifs, où il y a des pauvres, où il y a des mendiants, où l'amour n'est pas toujours positivement réussi, où il y a un enfant qui est tué par balle dans une fusillade, comme ça sera le cas d'une de ses chansons, où il y a des prostituées qui font ça parce qu'elles n'ont pas d'autre moyen de vivre. Il joue dans un film où le héros, qui est un pauvre artisan, finalement avec sa femme qui est une grande actrice, elle décide de se prostituer parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à finir le mois. Et dans une période comme la nôtre, il était très sensible à tout ça. Alors voilà, il y a deux types de chansons et Iannacci a toujours fait son choix, mais en même temps, il a toujours voulu faire rire les gens, leur donner de l'espérance, pas du tout les désespérer en leur disant « Voyez comme cette situation est dégueulasse, voyez comme il y a des malheureux, etc. » Non, il avait une formation un peu de chanteur de cabaret. Et il voulait en même temps les faire rire. Et il a beaucoup fait rire, parce que sa façon de décrire les gens, on va en parler, était assez, assez unique. Il a un côté... C'est difficile de parler de Iannacci, parce qu'il a un côté poète surréaliste, il a un côté cabarettiste, il a un côté chanteur à texte, et il mêle tout ça, et il fait une chanson très originale qu'on reconnaît tout de suite.
Est-ce que la notion d'artiste engagé, le concernant, a un sens ou pas?
Alors, oui, il était... Bon, il était politiquement très situé, il était à gauche, mais il n'a jamais fait de chanson directement politique, si vous voulez. Il n'a jamais... Il a participé à des événements politiques, mais il n'a jamais chanté directement, je ne sais pas, même en mai 68. On écoutera une chanson qu'il a écrite en 68, « Ho visto un re, j'ai vu un roi ». Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une satire des puissants, l'évêque, le cardinal, l'empereur, le roi à qui l'empereur a volé un château, l'évêque à qui le cardinal a volé une abbaye. Et il conclut en disant, et puis il y a le pauvre à qui on a tout volé, et il rit. Alors quelqu'un lui demande, c'est des chansons dialoguées souvent, et pourquoi il rit? Ben, il dit, il rit parce que, vous comprenez, s'il pleure, ça fait de la peine au cardinal, ça fait de la peine aux riches, ça fait de la peine. Alors voilà un peu son mode d'engagement politique. À la fois, en 68, il est très, très attentif, très, très présent, mais il fait une chanson de ce type, qui est à la fois drôle, parce que bon, ce pauvre qui rit est présenté de façon amusante, et puis, en même temps, c'est une satire très profonde des puissants qui étaient en cause dans 68, quoi, dans les épisodes de 68. Sinon, c'était pas un politique à proprement parler. Mais on écoutera des chansons. Il a été très sensible à la suite de son père, qui avait été un résistant. Il a été très sensible et il a chanté la résistance. Il a chanté les problèmes des gens qui étaient passés à la résistance et qui avaient été l'objet d'une répression à cause de ça. C'était pas du tout un indifférent et un apolitique. Mais c'était pas non plus un chanteur politique militant qui appelait à voter comme ça. Non, pas du tout. Alors, bon, Yann Nachi était né en 1935. C'est un des plus âgés. Il est mort en 2013, en mars 2013, tout récemment. Et il venait d'une famille mixte. Il avait un père qui venait des Pouilles. Son grand-père avait immigré des Pouilles à Milan, parce que c'est là qu'on pouvait survivre quand on venait des Pouilles à ce moment-là. Et son père était officier officier aéronautique. Et puis par contre, sa mère était de Lombardie. Et elle était ménagère. C'était une famille modeste mais aisée. Il a donc pu faire des études. Et il a développé tout de suite ce qui seront ses deux caractéristiques. Il fait des études, il passe son bac, il rentre à la faculté de médecine, il fait des études de médecine, qu'il poussera jusqu'au bout, et il deviendra cardiologue, et en même temps, il passe des diplômes au conservatoire de musique de Milan, et il est diplômé de plusieurs choses, et il est passionné par la musique dès l'âge de 4 ans. Il commence à s'intéresser à la chanson, à chanter. Alors, ce sera un pianiste tout à fait honorable qui sera recherché par... Et on peut regarder sur Internet au titre de ses chansons. On peut le regarder jouer du piano. Il était très, très à l'aise.
Si j'ai bien compris, il a même eu un prix d'harmonie qui lui a été décerné par Francis Poulenc.
Voilà. Il avait passé un diplôme d'harmonie, composition et direction d'orchestre, et puis en même temps qu'il passait sa licence de son diplôme de médecin. Et il a continuellement dans sa vie exercé à plein ces deux activités. Il était cardiologue à plein temps. Il va, après beaucoup d'expériences en Afrique du Sud, il va travailler avec Christian Barnard, par exemple, le premier cardiologue qui fait une
grève du cœur.
Une grève du cœur, voilà. Donc, il s'est formé, quoi, aux techniques les plus modernes. Il travaille pendant 4 ans aux États-Unis, dans les hôpitaux américains. Et il va finir, il sera à l'hôpital de Milan et il s'occupera, entre autres, il fera des consultations gratuites pour les travailleurs immigrés, par exemple. Ça aussi, c'est une forme d'engagement très, très importante. Donc voilà, on a ce double personnage dont on va essayer d'écouter des choses. Il commencera très, très tôt à travailler la musique. Et c'est un musicien tellement, tellement bon. Il se passionne pour le rock, il se passionne pour le jazz. Il va jouer avec de grands musiciens de rock et de jazz. Et il adore Elvis Presley, par exemple, aussi. Et puis, il va travailler avec quelques grands chanteurs italiens dans ses premières expériences, dont Celentano. Mm. Et Iannacci est un de ceux qui, avec Celentano, et puis il va très vite travailler avec Gaber, comme on l'a vu dans les précédentes émissions, c'est un de ceux qui vont introduire le rock. En Italie. Donc, c'est pas n'importe quoi. À partir de 57 à peu près, c'est pas n'importe qui dans la musique. Il a une grande expérience et puis il travaillera avec pratiquement tous les grands musiciens, beaucoup avec Paolo Conte, avec des gens comme Bindi, comme Tenco, comme Gino Paoli. Et puis il jouera avec Stan Getz, Jerry Mulligan par exemple, avec Chet Baker. Donc, pas n'importe qui.
Les gens qui sont en pointe dans leur domaine.
Absolument. Mm. Et il jouait avec eux, donc pour qu'il l'ait pris avec eux, ça suppose qu'il était un musicien de qualité. Donc voilà un peu, dans un premier temps, la personnalité de Iannacci. Et il va commencer... Donc, ils font du rock avec Gaber, ils montent des groupes, les Deux Corsaires, etc., qui jouent dans les cabarets de Milan, dans les cabarets où on fait des choses modernes, le Santa Tecla, le Mexico, etc. Il appartient pendant un temps à un groupe qui s'appelle les Rock Boys, donc c'est significatif. Et puis... En même temps, Iannacci va faire du théâtre. Il est acteur de théâtre. Il monte des spectacles.
Oui, c'est incroyable.
Il est acteur de cinéma. Mmh. Il va jouer dans des films avec quelques grands metteurs en scène. Et alors, ses débuts seront... on parle seulement de la chanson ici, on ne va pas parler de ses films. Il y aurait beaucoup à dire. Il va s'intéresser très vite... Il est milanais, à Milan, au petit peuple de Milan, aux vagabonds de Milan, aux quartiers pauvres de Milan, aux prostituées de Milan. Et c'est sûrement une des premières caractéristiques des chansons qui vont rester, qui seront reprises par de grands chanteurs comme Mina, par exemple, comme Ornella Vanoni, souvent. C'est sa première caractéristique. Il chante le peuple de Milan. Alors, si vous voulez, mais il y a trop longtemps que je parle, on va écouter une première chanson. Il écrit en dialecte milanais, parce qu'il parle le dialecte milanais, et c'est un homme de contact. Il va dans les rues, il va dans les bars, il va dans les bistrots de Milan, il parle avec les gens, il les interroge, il leur fait raconter leurs histoires, souvent... Alors, sa première chanson, qui est longue, une des premières chansons, « El portava i scarpe de tennis ». Il portait des souliers de tennis. Alors, je vous donne le contenu du texte. « Excusez-moi, mais je voudrais vous raconter l'histoire d'un de mes amis qui était allé prendre un bain sur la grande route pour aller à l'Idroscalo ». Alors, l'Idroscalo, c'était un des lieux de Milan où lui-même allait beaucoup et où il y avait des bains. Et les gens qui n'avaient pas de salle de bain chez eux, ils allaient prendre des bains à l'Idroscalo, qui était donc un aéroport pour... comment ça s'appelle les avions qui atterrissent sur l'eau, là,
Pour hydravions.
Voilà. Et puis, on pouvait y faire du canotage. C'était un peu la mer artificielle des Milanais. On va retrouver ça dans quelques films italiens. Il portait des souliers de tennis, des chaussures de tennis. Il parlait seul. Il poursuivait déjà depuis longtemps un beau rêve d'amour. Il portait des chaussures de tennis. Alors, il était le premier à s'en aller parce que c'était un barbone. C'était un vagabond, c'était... Et alors, il faut bien penser que on est en 64, Et les chaussures de tennis, c'était pas du tout ce que ça va devenir. C'est pas du tout ce qui identifie les jeunes.
Un signe de reconnaissance.
Non. Qui utilisait les chaussures de tennis? D'abord les gens qui faisaient du tennis, des sportifs, mais le tennis était un sport de riche à l'époque, oui. Encore. Mmh. Et les étudiants, quand ils sortaient du cours de tennis, ils enlevaient leurs souliers de tennis. Et puis deuxièmement, c'était simplement des souliers qui étaient en toile, donc qui n'étaient pas chauds. Et ils étaient ou blancs et bleus ou tout blancs. C'est la marque Superga qu'on portait à l'époque. Et alors, qui portait ces chaussures? C'était les pauvres. C'était les plus pauvres et les vagabonds. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter d'autres chaussures. Alors, un beau jour, pendant qu'il était en train de parler tout seul, il l'avait vue passer, blanche et rouge. Elle semblait le drapeau tricolore. Mais après cette fois, lui n'a plus été capable de parler. Donc, il tombe amoureux d'une fille qu'il a vue passer. Un beau jour, à côté de ce pauvre diable, s'arrête une voiture, elle sort, en sort quelqu'un qui lui demande « Ouais, ah, dites jamais, il dit en dialecte, dites-moi, oui, à toi, est-ce que tu saurais, s'il te plaît, la route pour aller à l'aéroport Forlanini ?»« Oh non, monsieur, j'ai jamais été à l'aéroport Forlanini, je ne sais pas où c'est. » la route pour aller à l'Hidroscalo, au moins, tu la connais. Ah oui, l'Hidroscalo, je sais où c'est. Emmenez-moi à l'Hidroscalo, je monte moi aussi dans votre voiture. Elle est belle celle-là, elle est belle cette voiture. Laisse tomber la voiture, vagabond. Non, monsieur, je viens moi aussi sur la voiture. Je n'ai jamais été sur une voiture, moi. Elle est belle cette voiture. Et puis, bon, il monte, et puis il lui demande de s'arrêter à un moment. Et à un endroit où il a eu son grand amour pour cette fille qui passait. Et puis on l'a trouvé, dit la dernière strophe avec le refrain, il portait des souliers de tennis. On l'a retrouvé sous un paquet de cartons. On l'a regardé comme si on n'avait rien vu. On l'a touché pour voir s'il dormait. Laisse tomber, c'est un vagabond. Voilà, on va écouter cette chanson qui est en dialecte milanais. Alors, ce sera une expérience du dialecte milanais en même temps.
Qu'est-ce que j'ai? Ma, mi veri quinta? D'un me amis che le era andata a far bagno. No, sul stradon per andare allo scalo. E vabbè. Era lì. L'amore lo colpì. E portava i scart del tennis. E parlava di perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Scar del tennis e che aveva due ste buon era il primo meno via perché l'era un barbo un bel di che non avrei parla de per lui. L'abbia vista passare, bianca e rossa, e che pareva il tricolore. Sì, ma lui ne stava un po' di parlare, e portava i scar del tennis, e parlava di per lui.
cuore correva già da tempo un bel sogno d'amore. Portava in scatola il tennis e aveva due de boom. Era il primo e la via, perché era un barbo.
Vabbè. Allora, un bel dì, vicino che possa creare chi griva una macchina, c'è da giovane. Oh, a chi? A me. Vedi che sono venuto giù dalla macchina, siamo solo qui io e lei. Ah. Basta che non mi date il voi e siamo a posto. Vabbè, allora, c'è che? E niente, potrebbe indicarmi la strada per andare all'aeroporto Forlanini? Eh? Aeroporto Forlanini? Forlanini. Mi fa pensare, no, faccio mettere il locale. Ma che faccio mettere il locale? No, ho conosciuto una famiglia Forlanini. L'ho conosciuta. Ci sei di mezzo anche te. Sono centro. Abitava vicino a Cademesio. La sua cugina ha avuto un figlio. È andato sotto una macchina. Pirata della strada e scappata, capito? Cosa c'è? Cosa mi racconta le storie a me? Racconto le storie perché già c'è il suo perché. C'è il suo perché. E più ti guardo a te che sei uscito dalla macchina, sei uscito dalla macchina, che la macchina lì e dopo bisogna vedere se è tua. Andiamo a registrare anche tu, perché io ho anche uno zio che fa questo rino. Più ti guardo, più mi sembra che sei stato te a pirata della strada, più il vigliacco. Ma guardi, non cominciamo, non voglio venire alle mani, non si viene mai alle mani tra gentiluomini, capito? Ma bella sta macchina, comunque bella vetturetta, hai fatto un bel acquisto, ti sarà costata una centata di cambiali, detto tra me e te, scusa, no, detto tra me e te, ti firmare una bella centata di cambialette, eh? Uè, ti do ragione, io ho un altro modo di concepire la vita, sono offside, per l'amor di Dio. Capisco anche gli altri, cioè capisco anche te. Meno te, perché più ti guardo più sono convinto che te sei stato a tirare sotto la sfida della Forlanini. Ma cosa stai dicendo? Sto dicendo. Non mi faccia parlare per l'amor di Dio. Guardi, sull'aeroporto Forlanini, oh madonna, non passa nessun altro. Scusi, per andare all'idrospesso di Toscalo. Perché non ha parlato prima. Ma non mi lasci parlare, mi tira fuori delle cose dall'altro mondo. L'idroscalo su dove è? Se vuole io mi metto davanti, sono stato campione di maratona, l'Ampugnano Cassano Magnago. Ah, ma sento parlare. Ma cosa c'è? Guardi, sali sull'automobile, mi venga sulla vettura che mi indica la strada. Lei indica la strada, la porto sul luogo dell'incidente. Ma che incidente? Perché lei ha fatto l'incidente. È per quello che è arrivato così veloce e si è fermato così in fretta. Io ti ho capito te. Tu capivi, vai. Ma io che gli disegni da nessuno, non voglio impasticciarmi. Per l'amor di Dio, gente come te. Perché la gente come te firma, piuttosto non mangia magari le mie caffè latte, una volta no, però la macchina bisogna avere, consigliere ribaltato, perché si sa mai, ma se sono sposato ho tre figli, meglio sedere ribaltabile. Ma tra tutte le macchine che c'era, se dovevi proprio comprare che la macchina kit, ma perché un culo. Bella sta macchina però, tutto, freni, frecce, gira. Non tocchi, che mi riga i vetri, ma che vetri. Ma, no, smetta di parlare, mi porti dove deputato a portarmi lì a Pesce dello Scalo. Calmo, sta calmo, se no ti faccio fare il giro di Milano io. Che Milano ce l'ho in pugno io. Oddio, se vuoi fare la gita turistica, tiri fuori un deca, io ti facevo una casita turistica. Ma lascia stare, barbone, lascia. No, non lascia stare niente, anche perché. Ferma! Ferma, Shulk, siamo arrivati, eh? Come io no, non sono arrivato. No, ma invece io sì, sì, mi sto arrivando. Ferma qui, mi batte anche il cuore. Ferma, ferma qui. Oh, piace! Che se ferma giochi, che anche a me, mi guardi il mio grande amore, roba minima, si intende, roba de barbo, el portava i scar del tennis, e parlava de perle, rincorreva già da tempo. Un bel sogno d'amore, e il portava in scatola del tennis, e il gaveva due de boom, era il primo in via, perché lei era un barbo. L'han trobat sota el mig de cartón i han guardat el pare va néixer i han tocat i el pare va que el dormiva. Sí, ma lascia estar, com lascia estar? Lascia estar, què? Interrava de barbo. Del tennis e parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, portava i scarf del tennis. E gaia duc de boom. Era il prima mena via, perché l'era un barbo.
Voilà une chanson caractéristique de Jan Natchi, à la fois acteur et chanteur. Il a le texte qu'il dit, le dialogue avec le propriétaire de la grosse voiture, c'est plein de choses. Alors il ne comprend pas Forlanini, parce que c'était l'aéroport de Milan qui était consacré donc à Enrico Forlanini, qui avait été un grand pionnier de l'aviation italienne, un inventeur, et qui s'appelle maintenant Linate. Et il ne connaît pas l'aéroport, il n'a jamais pris l'avion, bien sûr. Et il croit que c'est une famille qu'il connaît. Il dit « Ah, je connais une famille de Forlanini ». Et il développe là-dessus, puis il regarde la machine, « Elle a dû te coûter cher, ta voiture ». Enfin bon, il y a un dialogue entre un pauvre et un riche, quoi. Et il improvise, là. Il est acteur, il est cabaret, et puis entre ses improvisations, il chante. Et ça, c'est très caractéristique de ce que va faire Jan Natchi. Bien sûr, une chanson comme ça, qui dure 10 minutes...
Voilà, il n'a pas peur de ça.
Ah non !
Ça, c'est remarquable.
Et puis, et c'est écouté, cette chanson, on la chante toujours, oui. elle est restée célèbre, aussi parce qu'elle est en dialecte milanais. Et ça, c'est pas... ordinaire, quoi.
Voilà, alors cette question du dialecte, quand même, qui préoccupe un petit peu, parce que quand on ne connaît que très modestement l'italien, là, on est vraiment dans un texte qui est autre. C'est un dialecte, je ne dirais pas qu'il est hermétique, il ne faut pas exagérer, mais il est quand même assez fermé. sans le connaître. Et on parle pas, je ne parle pas de l'accent du chanteur, qui manifestement a un accent très prononcé.
Ah, oui. Et ça aussi, c'est très italien, c'est très peu français, c'est très italien. Il se sent d'abord milanais. Les gens qui connaissent, alors qu'il est allé aux États-Unis, il est allé en Afrique du Sud, c'est pas quelqu'un qui est resté confiné dans son appartement de Milan, mais sa réalité populaire, c'est Milan. C'est les pauvres de Milan, c'est ces quartiers de Milan, et dont la langue est le milanais. Même je pense à un chanteur comme Ivan Della Mea, par exemple, qui vient de Lucques, il est toscan, mais il vient habiter à Milan, il apprend le milanais, il chante en milanais.
Ah oui.
Il y a une permanence de la chanson dialectale en Italie, il faut penser à ça. Il y a Nacchi, qui est un intellectuel, c'est un médecin, un cardiologue, c'est pas quelqu'un qui est venu de ces quartiers populaires. Enfin, son père était quand même officier dans l'aéronautique, donc c'était pas n'importe qui. Et c'est ça sa réalité. Il est milanais. Il n'a pas fait de chansons sur l'Italie, alors qu'il a parcouru toute l'Italie dans ses concerts, dans ses spectacles théâtraux, Italie du Nord au Sud. Et son père est des Pouilles. Et il est très attaché aussi à ça. Mais il est milanais, donc il va chanter en milanais.
Oui, bien sûr.
Et ça, ça nous étonne. Oui. On a quand même relativement peu de chanteurs dialectaux.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, à la même époque, et il va écrire beaucoup de chansons en milanais. Il est l'auteur d'une quantité incroyable de chansons, de disques à deux chansons, d'albums. Il a fait, je crois, près d'une trentaine d'albums dans sa vie. Alors, il y a une autre chanson qu'on va écouter. Je t'ai acheté, to comprai calzette de seda. Je t'ai acheté des bas de soie. Et c'est une chanson de 64 aussi. Je t'ai acheté des bas de soie avec une... comment on appelle ça il y avait une...
Oui, couture.
Une couture derrière, oui. Avec une couture noire. Tu marchais à côté de moi comme une panthère sur la marche du trottoir. Moi en bas de la marche, comme c'était beau. Toi sans chapeau, moi avec mon chapeau sur la tête, comme j'étais beau. Nous marchions toujours ensemble, les gens qui passaient nous regardaient, et puis ils se retournaient et disaient « Regarde celui-là, il lui a acheté même une étole, il doit être un peu pistola, il doit être un peu… » Alors pistola, c'était en dialecte milanais, dans le reste de l'Italie, ça veut dire un couillon. C'est une personne un peu stupide, ingénue, sans préjugés, ou une pistola. Ça doit être, il doit être un peu pistola. Ce personnage, ça serait moi, dit-il. Je t'ai vu, pauvre Christ, cloué sur quatre planches. Moi aussi, je me suis vu cloué sur quatre planches. Comme toi, je me suis vu cloué comme un pauvre Christ. Je te laisse chaque soir sur la place Beccaria. Alors, la place Beccaria, c'est une des places importantes de Milan, où c'était un lieu de prostitution important. Et il va le rester même après la loi Merlin qui abolit les maisons closes. C'était un lieu de maisons closes, mais ça continue pendant très longtemps. Et où tu montres là ta marchandise, toi sur le trottoir, moi dans le café des macros. Toi à gagner les sous, moi à dépenser les sous avec les macros. Toutes les fois que nous sommes ensemble, il y a toujours quelqu'un dans quelque coin qui me regarde et qui dit « Regarde celui-là », etc. « Ah, ce serait moi, la pistola, pistola, ce sera toi. Tu as une femme à entretenir. » Tu travailles tous les jours. Ah, ça serait moi, le pistolet, ça sera toi. On va l'écouter.
Tu comprai calze de seda.
con la riga nera, che camminavi insieme a me come una pantera. Miglio del Basel, tissu del Basel, era bello. Ti senza il cappel, mi conte il cappel, mi sei ribel. Camminavo sempre insieme, la gente che la passava la sepultava, la mi guardava a me, la guardava, la diceva, ma che lei, ma va che lì, venga a comprare la stola, e deve essere un po' un pistola, che il pistola sere me. Dove por Christ, in ciuda su quattro sit, anche a me, me son vist, in ciuda su quattro sit. Come ti, peste ti, anche a me me son vist, in ciuda, in ciuda, come un por Christ. Jazz. Te scareghi ogni sera in piazza Beccaria, ti te mostre de South Bank la tua mercanzia, ti sul marciapè mi dentro al caffè di rucchete, ti a fa sui dane mi ha spenti dane coi rucchete. Dio che se mi insieme che è sempre un qua e due, ti scendo un canton che mi guarda, cosa vuoi? No, e mi guarda e mi dice, ma che lì è il galadona che rola, è il galadona che rola, e deve essere un po' pistola. Sariami il pistola, è il pistola d'ST. Sariami il pistola, è il pistola d'ST. Sariami il pistola, è il pistola d'ST. Te lauro tutto il dì, se pien de debiti de morì, te che la mia de mantegni. Pistola, il pistola del senti, sarà il pistola, il pistola del senti, te lauro che te dite che la mia te mantegni, niente devi te morì, e per sarà il pistola, te senti il pistola. Il pistola d'esseti, d'esseti il pistola.
Ah oui,
on pense un peu à Paolo Conte, un bon Paolo Conte, non?
Il a
sa voix
eu,
peut-être.
Oui. Il a beaucoup collaboré à Paolo, avec Paolo Conte. Il a écrit des chansons pour lui.
Ah oui.
Ah oui, il avait écrit des chansons comme Mexico. Il a travaillé dans Genova per noi, etc. Il a beaucoup. Pendant un temps, Paolo Conte a été pour lui une référence.
Ah oui.
Un des chanteurs, mais il faudrait parler du premier Paolo Conte, parce que le dernier Paolo Conte est très commercial.
Plus commercial.
Très de grande musique, de jazz, mais. Oui. Bon, c'est plus la même chose, il n'y a plus de contenu, il n'a plus rien à dire. Mais c'est vrai que Paolo Conte a été une de ses références de chansons, quoi. Et il y a tout, il y a Natchi dans ces deux chansons, le dialecte, l'évocation des pauvres, l'ironie, oui. La férocité. Ah, vous dites que je suis un couillon, mais c'est toi le couillon, tu dois entretenir ta femme, tu dois faire vivre tes fils. Moi, je suis au bistrot avec les maquereaux, et ma femme, tu vois, elle travaille là. C'est elle qui travaille là-bas.
Beaucoup de dérision, finalement.
Beaucoup de dérision.
C'est son arme absolue.
Ah oui, mais alors sans mépris.
Sans mépris.
Non, non.
Ouais, la dérision.
Parce que ça arrivait que dans les cabarets, il y avait une tradition italienne, on évoquait la prostitution, là, etc. Mais là, c'est le personnage sympathique, c'est le pistole.
C'est le pistole.
Ah oui, tout à fait. Et puis même quand il va évoquer, par exemple, dans la même époque, en 64, il va beaucoup évoquer ces quartiers louches de Milan qui sont très, très développés. Et on ne voit plus guère ça du centre. On a évacué tout ça maintenant. Mais c'était très, très, encore très près du centre. Il va évoquer, par exemple, une prostituée. Et c'est un texte là de Dario Fo et Sandro Ciotti. Il faut dire aussi qu'il a beaucoup travaillé avec Dario Fo. Ils chantaient ensemble, ils écrivaient ensemble à une époque où Dario Fo écrivait des chansons. Et on ne le sait pas beaucoup aujourd'hui.
Non,
on voit le prix Nobel. Oui. Alors il fait quelques. Il prend des positions. Il était pour Beppe Grillo là. Mais. Dario Fo a été un chanteur de cabaret au départ, en même temps qu'il était déjà acteur. Il y avait un milieu artistique très, très, très vivant, en particulier à Milan.
À Milan, bien sûr.
Parce que Milan était le centre de production, parce que c'est là qu'il y avait les grandes maisons d'édition de disques et les salles de spectacle. Alors, il écrit en même temps, il écrit la musique pour ce texte de Dario Fo qui s'appelle « Veronica ». C'est l'histoire d'une prostituée qui se prostitue debout. Alors ça commence par debout, debout, in paix, in paix, in paix, in paix. Véronique, tu n'aimais que la musique symphonique, mais tu la jouais avec l'accordéon. Véronique, pourquoi Véronique? Si je ne me trompe pas, tu étais dans la Via Canonica. La Via Canonica, c'était une des rues douteuses de...
Malfamée,
mais ça rimait aussi avec Véronica. Oui. Tu disais toujours, je veux me faire nonne, mais en attendant... Tu jurais contre les prêtres. Je me rappelle encore de toi comme un premier amour, des larmes, une rougeur. Tu avais fait semblant d'avoir pour moi des larmes, une rougeur, mais tu me laissas faire sans demander ce que je pensais de toi. In paix, in paix, in paix, Véronique, le premier amour de toute la rue Canonica. Avec toi, il n'y avait pas de risque de platonique. Véronique, avec toi, Véronique, jeune, pour nous, tu étais l'Amérique. Tu donnais ton amour pour un chiffre modique. Au Carcano, c'est le nom du quartier aussi, de même nature. Debout, mais je me souviens encore de toi, etc. Tu me laisses à faire, etc. Il y a donc des parties en dialecte et puis des parties... Dario Fo, il inventait des langues, il inventait le gramelot, mais ce n'était pas vraiment un auteur en dialecte. On va écouter Véronica.
Amavi solo la musica sinfonica, ma la suonavi con la fisarmonica. Veronica, perché?
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe.
Se non mi sbaglio, stavi in via canonica.
In pe.
Dicevi sempre io voglio farmi monaca. E intanto bestemmiavi contro i preti. Ti ricordo ancora come un primo amore. Lacrime e rossore fingesti per me. Ma lasciasti fare senza domandare cosa io pensassi di te.
In pe. In pe. In pe. In pe.
Veronica.
In pe.
Il primo amor di tutta via canonica.
In pe.
Con te non c'era il rischio. fresca del platonico, Veronica con te.
Il pe, il pe, il pe, il pe.
Veronica, il pe,
il pe.
Da giovane per noi eri l'America.
Il pe.
Avevi il tuo amore per una cifra modica al Carcano. In pe,
in pe, in pe,
in pe,
in pe.
Veronica,
in pe.
L'amor con te non era cosa comoda.
In pe.
E il luogo certo non era il più poetico al Carcano. In pe, ma ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime rossore, fingesti per me, ma lasciasti fare senza domandare al Carcano.
In pe, in pe, in pe, in pe.
Voilà.
En italien cette fois.
En grande partie.
En grande partie.
Oui, et c'est, oui, c'était un texte d'Ario Fo, mmh, et puis de Sandro Ciotti. Mais la musique est celle de Iannacci.
Oui, mais ça ne m'étonne pas.
Et sa façon de chanter, enfin c'est...
Une espèce de musique primesautière, humoristique, ironique humoristique, même,
bien sûr,
un
la
peu.
Musique, la musique
un peu attendrie aussi sur soi.
Oui, alors à la fois cette Véronique, à la fois il s'en moque, mais avec beaucoup de tendresse.
Ah oui.
Ça a été son premier amour. Ah oui. Alors, on était dans un coin où on pouvait pas, on pouvait, on pouvait, on pouvait pas échapper au prix modique. C'était le platonique n'existait pas. Mais, c'était mon premier amour, amour. Et c'était pas le plus poétique, mais enfin, bon. Il y a beaucoup de tendresse dedans.
Oui.
Et puis, à la même époque, il va s'intéresser de plus près au thème de la résistance qui lui était très, très cher parce que son père avait été dans les corps de résistants, de partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il consacre à son père et à tous ceux qui se sont trouvés dans cette période cette chanson qui s'appelle « Sei minuti all'alba ». Et qui est pleine de références, pas pour nous, parce qu'on n'a pas vécu de la même façon la fin de la guerre. Mais il faut penser que donc, Mussolini avait été arrêté par le roi, libéré par les SS. Il refait dans le nord une petite république, la Repubblica di Salò. Et il reconstitue une armée. Une armée qui va lutter contre qui ? Contre les Américains qui remontent. Et puis contre les résistants,
eh oui.
Et ceux qui sont rebelles, qui ne veulent pas rentrer dans cette armée, eh ben, on les arrête, ce sont des traîtres. Mais comme ce n'est pas des combattants réguliers, c'est des terroristes. On sait ce qu'on disait, c'était des terroristes. Et on ne les juge pas. On les fusille.
On les exécute.
Ou on les pend. Et le fascisme... abusait dans tous les villages les résistants qu'on avait pris, on les pendait aux arbres sur la place pour impressionner les habitants. Quoi.
Oui.
Alors la chanson dit 6 minutes à l'aube, et le jour n'est même pas encore levé, 6 minutes à l'aube, le prêtre est déjà prêt, il y a déjà une demi-heure qu'il continue à parler, je lui ai dit mon père, croyez-moi, j'ai déjà beaucoup prié. Dans la cellule à côté, il chante une chanson. « Ouais, mais c'est pas le moment, un peu d'éducation. Je pleurerai au contraire, le nœud coulant sur la gorge est déjà prêt, pleurer, d'accord, parce qu'ils doivent me fusiller. » Le 8 septembre, alors le 8 septembre, c'est la signature de l'armistice entre le roi qui s'est enfui, donc qui a renoncé au fascisme, et puis les alliés. « Je me suis échappé, j'ai fini de faire le soldat, je suis revenu chez moi. » Mais ils m'ont appelé déserteur. Et oui, il n'avait pas voulu rentrer dans l'armée de Mussolini. Et ils m'ont chargé sur le train. Je me suis échappé une autre fois. Je suis allé dans la montagne. Mais avant-hier, ils m'ont capturé avec les rebelles. Entre un officier, alors c'est un officier nazi, il m'offre de quoi fumer. C'est la cigarette, dernière cigarette qu'on offrait aux condamnés à mort. Merci, mais je ne fume pas avant de manger. Donc il y a une ironie même oui. dans cette situation oui. dramatique. Il a l'air offensé. Il me faut accepter. Les menottes sont déjà à mes poignets et ceux-là continuent à chanter. Et je traîne des pieds, je me sens mal. 6 minutes à l'aube, Dieu, comme c'est clair. Il faut me forcer, il faut faire un beau final. Allez, allonge le pas parce qu'il faut de la dignité. Alors ça, tout ça, c'est des citations de d'autres chansons ou de choses qu'avait dit, par exemple, un patriote milanais qui avait été fusillé. Le 8 septembre, je me suis échappé, etc. On va l'écouter.
Pronto già, leggiamo misura che il padre parla, ce l'ho detto padre de boom, io già mo prega. Nella cella canto, canto una canzone. Sì, ma non è il momento. Un po' di educazione, mi anche piangeria. Il gruppo è pronto già, piangere d'accordo è perché, manda fucila, forse tember su scappa, o finite fa il solda. Al paese mi su torna, disertore mangia ma, e su un treno carega, un'altra volta su scappa, in montagna sono andato, ma l'altre. Belli mancia fa, entra un ufficiale, mi offre da fumar, grazie ma non fumo, prima di mangiar. Alla faccia offesa, mi tocca di accettare le manette e i polsi sono già lì. Andrea canta e strascino i piedi. Sento ma 6 minuti all'alba, Dio me leccia, tocca farsi forza, ci vuole un bel finale. Dai, allunga il passo perché ci vuole dignità. Vostre tempe su scappà, un finire fa il soldà. Al paese mi son torna, disertore mancia ma, e su un treno carega, un'altra volta son scappa. In montagna sono andato, ma l'altre coi ribelli mancia pa. Vosso tempo son scappa, coi ribelli mancia pa. Vosso tempo son scappa.
Une évocation, nous, pour nous c'est loin parce qu'on n'a pas bien connu cette dualité de l'Italie, oui, mussolinienne, oui, dans le nord, résistante, oui, enfin les alliés qui remontaient dans le sud, la guerre civile, il y a eu une guerre civile épouvantable en 44 dans le nord de l'Italie, où la cruauté a été très 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 forte, très violente, quoi. On a des épisodes de violence épouvantables, des massacres, les troupes nazies massacrent aussi on a des oradours sur glane dans plusieurs villages de la Lombardie ou de l'Émilie. Et cette chanson évoque tout ça. Le pauvre type qui était soldat, le gouvernement italien ne donne pas d'ordre strict. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que les Allemands sont toujours nos alliés? Ou bien est-ce qu'ils sont devenus, le 8 septembre, est-ce qu'ils sont devenus nos ennemis? Et il y a des régiments qui vont résister aux Allemands, quelques-uns qui vont se faire massacrer d'ailleurs, parce qu'ils sont moins bien armés, moins nombreux. Et puis, il y a beaucoup de soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés chez eux, ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait à la fois les Américains et les Allemands qui les combattaient. C'est pas possible. Et évidemment, ils sont considérés comme déserteurs, comme rebelles. Et déserteurs, ça vaut la peine de mort, à moins qu'on accepte de s'engager dans les troupes mussoliniennes. On avait le choix. Et là, on a un pauvre gars qui...
Et ce qui m'étonne beaucoup dans cette chanson, c'est cette capacité de Iannacci à créer un univers complètement différent de ce qu'on a entendu jusqu'alors. Oui. Quasi héroïque, solennel. Il n'y a pas de dérision dans la chanson. Ne serait-ce qu'en écoutant la musique.
En même temps, c'est humoristique.
En même temps, il ne peut pas s'empêcher d'être humoristique. L'histoire de la cigarette.
Cigarette. Oui. Moi, je ne fume pas avant de manger.
Oui, oui, il y a du principe.
Il y a encore les gens qui chantent. On chantait beaucoup. Les résistants arrêtés, oui, et pour se donner du moral, ils chantaient dans leur cellule. Et ils chantent dans la cellule. Alors, un peu d'éducation. Et c'est humoristique, évidemment. Pardon. Et il y a tout ça, il y a un style particulier. Et puis Iannacci se fiche de respecter ou non les 4 minutes obligatoires maximum
de
la chanson. Il raconte une histoire. Ce qui est important, c'est la logique de l'histoire, c'est d'arriver au bout. Il va écrire dans le même disque une autre chanson, Soldato Nencini, sur les problèmes d'un soldat qui vient du sud, qui est envoyé dans le nord pour faire son service militaire, et il ne parle que son dialecte du sud. Il est complètement perdu. Et puis il apprend que sa Mariu, dont il était amoureux, comme le service militaire était long, elle l'a abandonné pour un autre, et elle lui écrit qu'elle l'a abandonné. C'est une chanson, même chose, à la fois dramatique et puis très, très humoristique.
Toujours cette tendresse, finalement.
Avec beaucoup de tendresse, absolument, oui, absolument. Alors voilà, on a une première idée de ce qu'est Iannacci. La prochaine fois, on écoutera d'autres chansons. Ce qui est caractéristique, c'est qu'avec ce refus du commerce, il devient quand même un grand chanteur qui va diffuser beaucoup, qui va avoir un succès, qui a été pleuré abondamment le 29 mars dernier.
Si je puis dire, c'est rassurant.
Oui.
Sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, ho con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.